le monde au féminin. Le monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
Le 1er août 2019, l'Arabie Saoudite a autorisé les femmes à obtenir un passeport et à voyager à l'étranger sans l'accord d'un homme de leur famille. Les femmes doivent obtenir la permission de leur parent masculin le plus proche pour faire des études dans le pays ou à l'étranger. Depuis quelque temps, elles peuvent obtenir un permis en ligne pour créer une entreprise et la police a ouvert ses rangs à des officiers femmes. En janvier 2018, elles ont été autorisées à entrer dans certaines enceintes sportives et à partir du 24 juin de la même année, elles ont été autorisées à conduire. Mais des militantes, dont certaines revendiquaient ce droit depuis des années, ont été emprisonnées et poursuivies en justice. Les Saoudiennes doivent toujours obtenir la permission de leur gardien pour se marier, tandis qu'un homme peut divorcer sans le consentement de son épouse. Seule petite avancée enregistrée sur cette question, en janvier, le ministère de la Justice a indiqué que les tribunaux avaient désormais mais l'obligation de notifier par SMS aux femmes la fin de leur mariage. Un député de l'Eswatini a proposé des peines de prison pour mineurs afin d'enrayer le fléau des grossesses précoces dans ce petit royaume d'Afrique australe frappé par le VIH-Sida. Je suis personnellement d'avis qu'une façon de freiner la grossesse chez les adolescentes pourrait être d'arrêter les enfants mineurs concernés, a déclaré Michael Masuku au Parlement de l'ex-Swaziland, estimant que la grossesse des adolescentes devrait être une infraction passible de prison pour les garçons comme pour les filles. Le royaume est gouverné par un roi ayant 14 épouses et se donnant le droit d'en choisir une nouvelle à chaque danse annuelle des roseaux où des milliers de jeunes filles vierges au sein nu dansent devant lui.
Parole de femme.
Girls Get Equal est le nom d'une campagne en ligne au Bénin dont l'objectif est de mettre fin aux inégalités entre filles et garçons et de promouvoir un changement de mentalité. Le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders y participe aux côtés de plan international. Pour la présidente du Rojlef, Marielle Degboué, cette campagne était plus que nécessaire, sachant que les inégalités commencent déjà dès le bas âge. Elle s'exprime ici dans un reportage de Ginette Fleuradandé.
Nous ne sommes pas forcément différents. On est tous des humains. Et lorsque l'on arrive à porter ce regard sur la jeune fille que nous sommes ou les jeunes filles avec qui nous travaillons, on n'a pas forcément besoin de faire remarquer que l'inégalité soit flagrante, même si les traditions culturelles ne nous le favorisent pas toujours.
Pour plan international Bénin, cette campagne reste une opportunité à saisir pour que la chance soit donnée aux filles de se faire valoir. Paul Cal Frédéric, représentant résident du plan international Bénin, soutient que lorsque les filles participent aux prises de décision et sont au centre de l'action, les objectifs sont toujours atteints.
Il est temps que les choses changent.
Il est temps pour nous de donner une nouvelle opportunité et surtout d'établir de nouvelles règles et de créer une ère nouvelle qui permet la participation des filles ici au Bénin, à la CDAO, dans mon pays en Haïti ou encore dans d'autres parties du monde. Pour plan, il n'y aura pas de chemin aussi long ni de mur très haut pour que l'égalité des filles ne devienne pas une réalité ici au Bénin et ailleurs.
Le roi Gelfa, depuis sa création il y a 10 ans, s'est donné pour objectif de contribuer à l'épanouissement de la femme au sein de la société. Cette campagne digitale s'inscrit dans cette logique. Tamia Coco et Irmine Aïrounton, respectivement représentants du roi Gelfa en Côte d'Ivoire et au Bénin.
Ce qui m'a le plus marqué, c'est les messages qu'on a définis dans le cadre de notre campagne. Ensemble, nous avons réfléchi sur les différentes thématiques qu'on voudrait aborder dans le cadre de cette campagne et les messages. Et j'espère vraiment que ce sera une campagne qui va nous permettre d'améliorer la situation des filles au Bénin et également dans l'Afrique.
Plan international et le roi Gelf espère qu'au bout des 6 mois, la campagne digitale Girls Get Equal aura réussi à repousser les inégalités dont sont victimes les filles. De Cotonou, Ginette Fleur Adonné pour VOA Afrique.
Au Maroc, les magnifiques poteries artisanales de Mama Aïcha se vendent de plus en plus rarement. Mais grâce aux réseaux sociaux, ces techniques ancestrales attirent les étudiants du monde entier. Partons à sa rencontre à travers un reportage dont vous pouvez voir les images sur voaafrique.com. Il est relaté par Dilédico.
Au pied des montagnes du Rif, Mama Aïcha apprend à ses apprentis l'art de la poterie avec des techniques qu'elle tente de perpétuer au fil des années.
So we help Mama Aïcha around collecting the clay.
Nous aidons Mama Aïcha à collecter l'argile. Nous observons le processus de fabrication de cette boue d'argile. Nous faisons quelques petites choses par-ci, par-là, et elle nous apprend les différentes étapes de cette pratique. Mama Aïcha explique que son métier n'intéresse pas la jeunesse marocaine.
Les jeunes ici ne veulent pas se salir les mains avec de l'argile. Ils préfèrent être des fonctionnaires avec des salaires fixes. J'aide ceux qui veulent apprendre, mais je ne peux rien faire pour ceux qui ne veulent pas.
Son savoir-faire, Mama Aïcha est ravie de le partager avec toutes les générations.
Je dois perpétuer cet héritage de ma mère. Cette profession, on ne doit pas disparaître.
La poterie traditionnelle est fortement concurrencée par la production industrielle.
Avec l'invasion du plastique, maintenant c'est difficile de commercialiser la poterie. Elle reste quelques-unes, 6 ou 7 femmes, mais elles sont plus âgées.
Mama Aïcha espère que la tradition qu'elle porte ne disparaîtra pas d'aussitôt et que la poterie à la marocaine trouvera un nouveau souffle.
Singapour a lancé une réforme visant à réduire le stress dans ses écoles. De nombreux enfants étant victimes d'anxiété dès le primaire. L'OCDE a détecté des taux d'anxiété supérieurs à la moyenne au plan international chez les élèves de Singapour et un rapport officiel de la ville-État confirmant ce constat dévoile que la course vers l'excellence pèse sur le mental des élèves, entraînant parfois des suicide. En effet, à l'approche des examens, les appels d'élèves en détresse se multiplient auprès des Samaritains. Pour faire baisser la pression scolaire, les autorités veulent ainsi supprimer certains examens en primaire et secondaire. La réforme prévoit aussi de restreindre le tri des élèves en fonction de leurs résultats pour former des groupes de niveau. L'État insulaire n'est pas un cas isolé en Asie. À Hong Kong, le travail scolaire est cité par le Centre d'études sur la mortalité infantile comme l'une des principales causes de suicide d'adolescents. Le Japon enregistre également un taux élevé de suicide d'adolescents avec un pic le 1er septembre, date de la rentrée scolaire.
Si jeunesse pouvait.
L'année 2019 au Gabon aura été marquée notamment par le succès de la deuxième édition des vacances agricoles organisée par l'Institut gabonais d'appui au développement. Cette initiative du gouvernement vise à initier plus de 500 jeunes au métier de la terre. Voici le reportage de notre correspondant Ismaël Obiangenze qui a rencontré des étudiants en agriculture à Libreville.
Le jardin potager de l'Institut gabonais d'appui au développement accueille du beau monde. Quelques dizaines de jeunes font l'apprentissage de l'agriculture urbaine dans ses différentes étapes. Quelques vacanciers sur le site témoignent.
On enlève les mauvaises herbes pour que la plante pousse bien et on appelle ça le sarclage.
Il y a les petites graines qui passent d'abord par la pépinière parce qu'ils sont encore fragiles et la température et le rayonnement solaire et parce que à cause des fortes pluies. Et il y a ceux qui passent, qui sont sémis directement parce qu'ils ont les grosses graines.
Ils sont ainsi déployés à travers plusieurs projets agricoles. Libreville reçoit plus de la moitié de ce contingent de 500 élèves pour une formation gratuite. Michel Assoumo, formateur à l'IGAD.
Nous avons mis à disposition nos sites et en dehors des sites, nous avons mis à leur disposition des techniciens qui accompagnent les techniciens du ministère de l'Agriculture dans leur programme de vacances agricoles. L'objectif avoué, c'est de susciter des vocations auprès des enfants, dont on suppose qu'en prenant le temps d'expliquer un peu ce que c'est que le métier de l'agriculture, parce que malheureusement, dans notre culture, l'agriculture, c'est un peu le parent pauvre. Celui qui se lance dans l'agriculture est un peu catalogué par les familles comme étant quelqu'un qui a raté sa vie. Donc on essaie effectivement de gommer ces clichés-là pour leur faire comprendre que l'agriculteur, c'est quelqu'un qui peut très bien employer un médecin dans son exploitation, peut employer un ingénieur dans son exploitation, dont le plus important, c'est de mettre en place une technique agricole qui permette effectivement de développer sa structure et de se faire de l'argent.
La formation des vacanciers est exclusivement pratique, 3 jours sur 7. Chimène Porolo, contrôleur d'agriculture, coordonne les différentes activités des enfants dans les jardins de l'IGAD.
Les enfants sont en train, d'autres sont en train de sacrer et d'autres sont en train de préparer les planches pour leur permettre un peu de revoir ce qu'on attend par les cultures maraîchères et comment ça se passe en général. Voilà, donc le retour à la terre, il faudrait bien que ces enfants-là puissent connaître un peu ce qu'on attend par retour à la terre et quelles sont les spéculations que l'on utilise pour permettre aux gens, n'est-ce pas, dans les cultures maraîchères de bien pouvoir alimenter la population.
Libreville, Ismaël Obiangenze, VOA Afrique.
Face à la montée de la criminalité organisée transnationale, dont le terrorisme, la jeunesse du Niger s'est interrogée sur son rôle dans la lutte contre ce fléau à l'occasion de la semaine du jeune avocat à Niamey. Notre correspondant Abdulrazak Idrissa nous en dit plus.
Au programme des consultations et des défenses gratuites à des personnes dans les différentes communes et au tribunal de Niamey, des visites conseils à des personnes prévenues à la prison civile, mais surtout un colloque de réflexion sur le rôle du jeune avocat dans la lutte contre les infractions transnationales. Maître Adama Souna, présidente de l'association.
Comment serait-il possible de combattre les ennemis de la liberté sans tomber dans le piège qui consiste à méconnaître leur droit à la liberté? On peut s'interroger en l'occurrence de conditions de possibilité d'un jugement à l'encontre des personnes accusées, notamment des crimes qui heurtent la conscience de l'humanité sans manquer d'humanité à leur égard. C'est apparemment ce dilemme à la to be or not to be de Shakespeare qui rend inéluctable la nécessité de faire du procès en matière pénale un dernier lieu où l'humanité peut encore être lisible.
Le Niger fait partie des pays confrontés aux menaces terroristes et qui se sont engagés dans un processus de jugement des personnes impliquées dans des dossiers de terrorisme. Plusieurs jeunes avocats ont été désignés par le barreau pour défendre ces personnes devant le juge. Maître Yaye Moukela, bâtonnier de l'Ordre des avocats du Niger.
Le barreau du Niger, à travers les jeunes avocats, dans le cadre de la prise en charge de la défense des dossiers de terrorisme, c'est depuis 2016... engagé dans un vaste programme de formation sur les thèmes aussi variés comme le traitement des enfants victimes de violences, de recrutement et de traite des personnes, la protection de l'enfant, la sensibilisation sur les dimensions du genre dans les réponses de la justice pénale au terrorisme, la dimension du genre dans les enquêtes et poursuites des cas de terrorisme, l'assistance et la défense dans les dossiers de terrorisme et la coopération pénale internationale. Ce programme riche a aujourd'hui permis à l'ensemble des avocats du Niger de bénéficier d'un renforcement de capacité sans égal dans la sous-région.
Le bâtonnier Maître Yaye a insisté également sur l'appui de l'État à ces jeunes avocats pour une meilleure administration de la justice au Niger. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Et oui, et si la jeunesse pouvait?
Le 13 août 2019, deux hommes et une femme ont été condamnés à mort par un tribunal de Shinji au Malawi pour le meurtre d'un albinos en 2015. En mai dernier, un homme avait également été condamné à mort pour le meurtre d'un albinos en 2017. Le pays n'a pas procédé à une exécution capitale depuis 1994. Les condamnations à mort sont commuées en détention à perpétuité. Le Malawi est confronté à une recrudescence de violences contre les personnes atteintes d'albinisme. L'association APAM a recensé au moins 148 cas, dont 21 meurtres depuis 2014. Moins d'un tiers de ces dossiers ont fait l'objet d'investigations et se sont conclus par un non-lieu ou un acquittement dans la plupart des cas.
Entre parenthèses.
À quelques kilomètres de la jungle urbaine de Johannesburg, une jeune Sud-Africaine s'est lancée dans le défi de sauver les abeilles, dont l'existence est menacée sur toute l'étendue de la planète. Asma Botmi-Clark a été à sa rencontre.
Portia Mouroudi est ce qu'on appelle une héroïne des temps modernes. Cette Sud-Africaine a décidé il y a 7 ans de consacrer sa carrière au sauvetage des abeilles, et avec elle, l'agriculture locale. Son but, sortir les villageois sud-africains de la pauvreté grâce à la production de miel local biologique.
Le chômage est si élevé dans les communautés rurales. Les gens ne sont pas éduqués, mais ils ont des ressources naturelles qu'ils ne mettent pas à profit. Et c'est à ça que nous avons pensé, leur apprendre comment utiliser les ressources dont ils disposent et le faire grâce à l'apiculture.
Inspirée par son grand-père, Portia Mouroudi a créé The Village Market, un marché virtuel sur lequel elle revend le miel des villageois. Elle enseigne ainsi l'apiculture aux fermiers et installe des ruches sur leurs terres cultivées sans pesticides. Thabo Ndala, agriculteur.
Avant, toutes ces fermes étaient négligées. Mais si vous allez faire un tour maintenant, vous pouvez voir qu'il y a plus d'activités. Cela est dû au Village Market parce qu'il nous donne accès au marché. Il nous trouve des clients pour nos produits, une clientèle type qui motive la communauté et qui nous pousse à vouloir continuer dans le secteur de l'agriculture.
Ambitieuse, la jeune femme a déjà installé plus de 800 ruches dans tout le pays. Elle veut aussi redonner aux jeunes le goût du travail de la terre.
Ces terres étaient des fermes cultivées il y a quelques années. Mais quand les grands-parents décèdent, les jeunes ne savent pas quoi faire de la terre et ils l'abandonnent. Nos enfants ont besoin d'une planète où vivre et leurs petits-enfants aussi. Alors sans les abeilles, il n'y a pas de nourriture. Alors pourquoi ne pas tous s'y mettre? C'est une cause qui en vaut la peine.
Cette année, les efforts de Portia Mouroudi seront récompensés par un prix. Celui de la femme la plus influente des pays de la région SADC.
La société d'énergie solaire Bibox utilise la méthode d'alimentation hors réseau pour fournir de l'énergie électrique à un village au Togo, gratuitement dans un premier temps et ensuite à bas prix. Les bénéficiaires témoignent d'une meilleure qualité de vie et d'une augmentation considérable de leur productivité. La compagnie entend installer la même technologie dans plusieurs communautés africaines, notamment pour aider les femmes et les jeunes à mieux mener leurs activités génératrices de revenus grâce à l'énergie propre et renouvelable. Irénée Hermanungbo nous en dit plus.
Abla Ogodo faisait 10 km à pied pour aller chercher de l'eau pour sa famille. Aujourd'hui, elle n'a plus besoin d'aller si loin pour s'offrir de l'eau potable.
Nous avons maintenant de l'électricité pour alimenter la pompe. Avant, aller chercher de l'eau était une vraie corvée. Nous passions toute la journée à aller chercher de l'eau. Maintenant, nous avons de l'eau quand nous le voulons. Nous sommes libres maintenant.
Bibox est une société d'électricité basée au Royaume-Uni. En partenariat avec le groupe français EDF, elle alimente entièrement le village de Sipé à Fidignon en énergie solaire, une réalité qui change les habitudes dans cette région où l'électricité était produite par des générateurs bruyants qui fonctionnaient grâce au mazout, un carburant qui pollue l'environnement. Essie Domez, résidente à Sipé à Fidignon, se réjouit de cette nouvelle technologie.
Nous vivons un grand changement dans le village depuis que Bibox a installé la centrale solaire. On avait beaucoup de difficultés avec l'ancien moulin du village. Ça marchait difficilement, il fallait toujours moudre le maïs à 3 ou 4 reprises avant d'avoir une bonne farine. Mais avec Bibox, tout est facile maintenant et moudre le maïs n'est plus une corvée.
Même son de cloche du côté de Bogar à Mebuto, il est couturier dans le village de Sipé à Fidéon.
La vie a changé au village. C'est très bon. Je suis content. Avant, ceux qui avaient plus de moyens utilisaient un petit groupe électrogène pour le travail. Et quand ça fonctionnait, on gérait avec parcimonie. Maintenant, l'électricité est disponible à toute l'heure.
Sipé à Fidignon est le premier village togolais à bénéficier du nouveau système hors réseau de Bibox, un système que la société souhaite étendre dans tout le Togo, précise l'un de ses superviseurs, Isidore Kodjo.
Avant, là, le village est noir, tout est noir. Maintenant, depuis le lancement ou bien l'ouverture de cette centrale, vous allez voir la nuit, le village est clair, les enfants qui apprennent en dessous des lampadaires.
Pour l'instant, le service est gratuit, mais les résidents devront commencer à payer dans quelques mois. Lara Santiegou est le directeur général de Bibox Togo.
Nos populations dans ces zones devraient pouvoir avoir accès à Internet, à la téléphonie mobile, à l'électricité propre, notamment produite par des systèmes solaires, mais aussi pouvoir avoir la possibilité de faire fonctionner des usages productifs, comme les moulins, les pompes à eau, etc. Bref, tout ce qui peut contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie.
En Afrique de l'Ouest, des dizaines de millions de personnes n'ont pas un accès fiable à l'électricité. Pour les entreprises développant des programmes hors réseau, cela représente un marché inexploité de plusieurs milliards de dollars.
Chères auditrices, chers auditeurs, le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel, juste après les nouvelles. Sur notre site internet, visitez aussi voafrique.com/LMF pour consulter nos articles, vidéos, interviews et les autres éditions déjà parues. C'était Nathalie Barge avec vous, on reste en contact, bon courage et à très bientôt.
Arrête.